le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, il y a seulement trois générations dans tous les pays du monde, nos pieds étaient notre plus fidèle moyen de transport. Après la traction animale, le train, le tramway et la bicyclette, l'invention de la voiture dès la fin du 19e siècle a complètement modifié notre rapport au temps et à l'espace. Tout est allé très vite, car dans les pays occidentaux, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, les politiques publiques ont créé des infrastructures routières et soutenu l'industrie automobile. Résultat, il y a actuellement 1,5 milliard de voitures en circulation dans le monde qui polluent l'air et l'atmosphère et qui consomment une grande quantité de ressources. Pourtant, comme le rappelait récemment Emmanuel Macron, nous adorons cela.
Ce qui est très important pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Mais la voiture, dans notre pays, il faut le dire, ça a été de la restructuration industrielle ces 20 dernières années. On a perdu beaucoup d'emplois. Et aujourd'hui, on produit à peu près, je parle de mémoire, entre 1 million et 1,5 million de véhicules sur notre sol. Ce que nous avons fait ces dernières années, c'est qu'on a relocalisé grâce à l'écologie.
Et oui, sauf que l'écologie impose d'aller beaucoup plus loin et de repenser complètement notre mobilité. Et c'est compliqué, car il ne s'agit pas simplement de tout miser sur les voitures électriques. Il faut développer la marche, le vélo, les transports en commun et être créatif. Et ça tombe bien. Depuis quelques années, il y a un secteur qui est en pleine effervescence, c'est celui des véhicules intermédiaires. Entre le vélo et la voiture, ils sont plus légers, moins chers, et ils vont jouer un rôle clé dans l'évolution de nos mobilité. Dans le monde entier, des géotrouve-tout sont en train de les inventer. Nous allons en parler avec nos invités, mais tout d'abord, nous avons rendez-vous au pied de l'immeuble de RFI avec un vélo-reporter qui fait un tour de France de 3000 km dans un de ses véhicules et nous avons bien l'intention de le tester.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Jérôme Zindi.
Bonjour.
Alors nous sommes au pied de l'immeuble RFI à Issy-les-Moulineaux, dans l'ouest de Paris. Qu'est-ce qu'il y a à côté de nous là ?
On va monter dans ce qu'on appelle un véhicule intermédiaire. Alors celui-ci, il est façon vélo augmenté, c'est pour ça qu'on porte un casque. Et en fait, c'est un quadricycle, donc c'est un vélo à 4 roues, qui fonctionne comme un vélo assistance électrique, sauf qu'il roule à 45 km/h, qu'il est caréné, donc on est à l'abri du froid et de la pluie, il y a 80 km d'autonomie, et on peut effectivement être soit seul ou, comme on va le faire ensemble, être à deux.
C'est 10 fois plus léger qu'une voiture ?
C'est 10 à 15 fois plus léger même qu'une voiture électrique. En fait, on a soit les vélos assistance électrique qui pèsent environ 20 kg, soit de l'autre côté, on a des voitures électriques qui pèsent 1,5 tonne. Et finalement, entre les deux, on n'avait rien. Et donc, le véhicule intermédiaire, il vient combler ce maillon manquant et donc créer une sorte de compromis où finalement, on a le minimum de ce qu'il faut pour nos réels besoins du quotidien. En France, le trajet médian pour aller travailler, c'est 12 km. Ce véhicule, il peut faire 80 km avec son autonomie, il roule à 45 à l'heure, donc en fait c'est largement suffisant pour les besoins du quotidien, pour aller travailler, pour faire ses courses, pour ses loisirs. C'est en tout cas une réponse, une des solutions pour la transition des mobilités et puis pour sortir du tout voiture.
Nous allons voir si c'est confortable. Je monte dedans, je monte à l'arrière et vous à l'avant.
C'est ça.
Parce que ça fait quoi pour décrire aux auditeurs quelle longueur ?
C'est très court, hein, je ne saurais même pas dire, mais ça doit faire...
À peine 2 mètres, oui.
C'est ça, environ 2 mètres. C'est pas large du tout, puisqu'en fait, on sera l'un derrière l'autre. Donc en fait, on a effectivement un siège à l'avant, on a le pédalage, hein, puisqu'on est actif dans ce déplacement. C'est ça qui est, je trouve, génial aussi, moi qui défends le vélo depuis 2020. Je retrouve les joies du vélo. On a un guidon, donc il y a une assistance, je le disais, il y a des moteurs électriques dans les roues avant. Et effectivement, derrière le siège du pilote, du conducteur, on a une banquette qui peut accueillir soit un adulte, soit un à deux enfants.
Attention donc... à vous, je ferme la porte. Vous savez que c'est une porte papillon comme dans les Lamborghini. Hein.
C'est hyper chic. Maintenant, on a dit qu'on changeait les imaginaires, donc c'est on ça. S'en fiche de la Lamborghini.
Exactement, en tout cas, ça, c'est beaucoup plus économique et surtout beaucoup plus écologique aussi qu'une Lamborghini.
Et beaucoup plus silencieux, on l'entend là. Il n'y a pas de gros moteur qui fait vroom vroom.
Non, c'est le principe de la mobilité électrique, effectivement. Hein, ça supprime plein de nuisances pour soi-même, mais aussi pour les autres.
Est-ce que les autres véhicules vous acceptent bien ? Est-ce que les voitures ne vous klaxonnent pas trop ?
Non, justement, je trouve que les automobilistes nous considèrent étonnamment un peu comme l'un des leurs, en fait. Je pense que c'est parce que le véhicule est quand même, même s'il est très petit, est quand même bien visible, qu'on s'en sert quand même très facilement dans le trafic. Alors bien sûr, hein, on roule le maximum à 45 à l'heure, donc on va ni sur l'autoroute ni sur les périphériques, et on évite évidemment les grands axes, mais même sur les grands axes, sur des nationales où ça roule à 90 à l'heure par exemple, il y a une bonne anticipation des automobilistes, et il y a globalement, hein, bien sûr il y a toujours des exceptions, mais il y a globalement un bon respect du véhicule avec des dépassements qui se font en sécurité. Après, je joue le jeu aussi, évidemment, hein. Dès que je peux, je me mets sur le côté, et quand je sais que c'est sécuritaire pour moi et pour l'automobiliste, je facilite aussi le passage. Mais non, franchement, c'est une bonne surprise, il y a une bonne acceptation.
Il y a tout ce qu'il faut dans ce véhicule, comme une vraie voiture, finalement.
Il y a tout ce qu'il faut, il y a des feux, il y a des clignotants, il y a un essuie-glace, il y a même un petit klaxon. Voilà.
Nous allons aller nous garer au parking de RFI pour mettre ce véhicule en sécurité et parler de la nouvelle aventure mobile avec tous les autres invités qui nous attendent en studio.
Ouais, tout à fait, ça va être très chouette de pouvoir évoquer cette nouvelle forme de mobilité et puis de voir quels sont les enjeux et les promesses. Ça peut vraiment nous apporter beaucoup.
Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say hey man. Shark was never my scene and I don't like Star Wars. You say roll, I say Roy, you say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Et nous voilà dans le studio 52 au 5e étage de RFI où nous retrouvons les autres invités que je vous présente tout de suite. Hamza El-Jebari, bonjour.
Bonjour Cécile.
Vous êtes ingénieur électromobilité au service transport et mobilité de l'ADEME, l'agence française de la maîtrise de l'énergie. Vous travaillez notamment sur les batteries, gros enjeux, nous en parlerons dans un instant. À vos côtés, Christophe Charles, bonjour.
Bonjour Cécile.
Vous êtes concepteur de véhicules intermédiaires, Wizz et Aeon Motors. Vous êtes venu en Wizz d'ailleurs.
Oui, tout à fait, oui, depuis Meudon.
Donc c'est un autre type de véhicule, là ça ressemble un petit peu plus à une petite voiture.
Effectivement, oui, quelque part une voiture ultra légère, donc un véhicule intermédiaire, un véhicule doté de 4 roues qui ne pèse que 500 kg et qui emporte la juste quantité de batterie nécessaire à faire des déplacements de proximité.
Voilà, vous allez nous détailler tout cela dans un instant. Et Aurélien Bigot qui est en ligne avec nous depuis Amiens, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur spécialisé dans la transition énergétique des transports et vous avez publié « Voiture » au pluriel dans la formidable collection « Fake or Not » chez Tana Édition. Alors Jérôme Zindi, c'est avec vous que j'ai fait ce tour là en début d'émission. Donc c'est quoi cette nouvelle aventure mobile que vous êtes en train de vivre depuis début février ?
Alors, la nouvelle aventure mobile, c'est un tour de France de 3000 km. L'objectif, c'est de documenter toutes les promesses et enjeux autour de ces nouveaux véhicules qui sont les véhicules intermédiaires. En fait, moi, depuis 2020, je défends le vélo. J'aimerais que tout le monde soit à vélo, mais il y a une réalité. C'est que même dans le pays qui est l'exemple européen, comme les Pays-Bas, il y a un trajet sur 3 qui se fait à vélo. Donc, on peut faire x10 en France. Hein. En France, c'est 3 à 4% des parts modales. Mais je sais aussi que tout le monde ne fera pas de vélo parce qu'on peut ne pas être à l'aise. On en parlait en introduction, mais aussi parce que les déplacements qu'on doit faire ne peuvent pas se faire à vélo. Et donc, je suis convaincu qu'il faut trouver d'autres solutions, d'autres alternatives à la voiture. Et effectivement, mon cheminement m'amène à découvrir ces véhicules intermédiaires-là et puis à les documenter, à voir comment on peut réinventer de nouvelles formes de mobilité, que ce soit du côté des constructeurs, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont en train de se pencher sur ces questions et de trouver le bon compromis en termes d'usage. Et puis aussi celles et ceux qui expérimentent. Il y a des citoyens déjà qui se déplacent tous les jours à bord de ces véhicules intermédiaires. Il y a des associations qui s'en emparent aussi et des territoires qui les mettent à disposition justement pour qu'on puisse les tester. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont en train de se faire autour de ces véhicules-là. Il y a une vraie promesse d'avenir et c'est le but de documenter tout ça en vidéo sur cette nouvelle aventure mobile.
Voilà, on peut retrouver tout cela sur YouTube. Vous êtes parti début février, vous avez déjà fait 1800 km, il vous en reste donc 1200 si je compte bien.
C'est ça, un peu plus, parce qu'il y a les tournages aussi, etc. Mais en fait, là, effectivement, donc, je viens d'arriver à Paris, il reste un mois encore d'aventure décarbonée, hein, puisque ça se fait effectivement à bord de ce véhicule intermédiaire. Le but, c'est aussi de l'expérimenter, de le tester, avec plein de conditions différentes. Hein. Bien sûr, sous le soleil, c'est chouette aussi. Mais le but de le faire dans des conditions hivernales, c'est de montrer justement que ce véhicule est aussi une réponse pour des déplacements qui peuvent se faire toute l'année sous la pluie, par des conditions venteuses, etc.
Et nous sommes très bien à l'intérieur. Puisque je l'ai testé, c'est vrai que c'est très confortable. Hamza El Jebari, l'Agence française de la maîtrise de l'énergie, hein, l'ADEME, croit beaucoup à l'émergence de ces véhicules intermédiaires puisqu'elle a lancé l'Extrême Défi en 2022. Quel est le principe ?
Alors, l'Extrême Défi, on peut le définir comme un parcours de coopétition. C'est un mélange entre deux mots, coopération et compétition, dont l'objectif principal est d'imaginer, prototyper, et produire des nouveaux véhicules qui doivent être sobres, durables, légers, simples et peu coûteux. L'objectif est de remplacer la voiture pour les déplacements du quotidien, principalement dans les territoires peu denses ou ruraux, là où il y a peu d'alternatives à la voiture thermique.
Donc le but, c'est de développer des nouveaux modes de transport plus adaptés, légers, sobres, moins chers, hein, on le disait. Alors il y a quoi, à peu près 40 équipes aujourd'hui qui travaillent sur ce qu'on appelle des prototypes, c'est-à-dire des nouveaux véhicules qui vont émerger, que nous verrons peut-être rouler prochainement.
Tout à fait. Alors l'Extrême Défi est un parcours lent, organisé sur 3 ans et qui consiste en différentes parties. D'abord, une phase d'idéation, pour laquelle il y a eu un appel à projet chaque année depuis 2022, puis une partie prototypage et une troisième partie industrialisation. La partie idéalisation a l'objectif de simuler des équipes pour proposer des nouveaux concepts. On a eu 43 équipes à la première phase et 12 à la deuxième phase. Ensuite, la partie prototypage, qui est constituée aujourd'hui de 40 équipes, a la finalité de produire des prototypes qui vont servir pour lancer des expérimentations. Parce qu'on ne va pas attendre jusqu'à l'industrialisation et le déploiement massif de ces véhicules pour un peu sonder les personnes et récolter...
Oui, il y a la dimension de l'acceptation, en fait.
C'est ça, c'est un processus d'amélioration continue. On lance des modèles, on lance des expérimentations dans le territoire, on récolte des retours d'usage réel et puis on affine nos modèles. Et derrière ça, il y a une phase d'industrialisation dont l'objectif est de produire en petite pré-série, des modèles qui ont fait leurs preuves.
Voilà, ceux qui seront sortis, les grands gagnants de cet extrême défi. Alors Christophe Charles, vous aussi vous croyez à ces véhicules intermédiaires puisque vous êtes lancé dans l'aventure il y a 10 ans déjà.
Tout à fait, oui, très exactement, depuis 2008 même.
Alors, pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qui vous a donné cette envie ?
Alors, je ne faisais pas partie de l'aventure initiale, donc je pense au fondateur, M. Denis Mergin, avec lequel je parle régulièrement. Et Denis Mergin, avec ses associés, ont souhaité concevoir un véhicule. Donc, c'était sur un fonds de crise économique, c'était en 2008, en se disant, l'avenir du véhicule, c'est peut-être quelque chose, un véhicule qui soit électrique, léger, et qui permettent d'offrir le maximum dans le minimum de ressources.
Alors, on l'a entendu à travers Extrême Défi, mais c'est vrai que c'est quand même un parcours du combattant, hein, de créer, parce qu'entre l'idée et l'aboutissement, là, vous disiez, vous êtes venu avec Wiz, donc qui est l'un de vos véhicules, puisqu'il y en aura d'autres.
Nous l'espérons, oui.
Mais ça a pris beaucoup de temps entre l'idée et la concrétisation.
Voilà. Tout à fait. Vous partez de l'idée. Ensuite, on a un premier concept. Il roule. Il s'agit ensuite de le rendre mécaniquement performant, puis de l'homologuer, puis de sourcer ses composants.
Alors Aurélien Bigot, comment est-ce que vous réagissez, vous, le spécialiste donc, de la mutation de nos mobilités, à cette émulation autour des véhicules intermédiaires ?
Disons que c'est une bonne chose parce que c'est aujourd'hui un peu un chaînon manquant de nos mobilités, en tout cas un moyen d'aller vers des véhicules qui sont beaucoup plus sobres par rapport aux voitures qu'on a actuellement. Donc ça a été dit, à la fois il y a le passage à l'électrique qui est la partie technologique de la transition, et en même temps cette partie, cette transition transition vers l'électrique sera d'autant plus vertueuse si jamais on va vers des véhicules qui sont plus légers, qui consomment moins d'énergie à l'usage et qui consomment moins de ressources à la fabrication, donc notamment aussi avec des batteries plus petites, parce que le véhicule consomme moins d'énergie, mais aussi potentiellement parce que ces véhicules sont plutôt dimensionnés pour des trajets du quotidien. Donc c'est-à-dire notamment pour tous les ménages, toutes les personnes qui vont être dépendantes à la voiture, ça a été dit, notamment dans les zones rurales, bien souvent on a en fait des véhicules assez surdimensionnés par rapport aux usages. On a des voitures de 5 places qui peuvent aller à 180 km/h, alors que bien souvent les trajets sont avec une seule personne ou même deux personnes à l'intérieur du véhicule pour des vitesses bien plus réduites, et aussi pour des véhicules pour lesquels on n'a pas besoin d'autonomie de 300-400 km pour les trajets du quotidien. Donc finalement les véhicules intermédiaires viennent répondre à ce type de déplacement, et donc c'est une bonne chose qu'il y ait tout un tas de projets qui se lancent là-dessus.
Et ce n'est pas uniquement pour les particuliers, hein, c'est aussi une solution pour les entreprises. C'est la conviction en tout cas de Gérard Tétu, le dirigeant fondateur de Cluster et l'inventeur du Frigone qu'il nous présente.
Alors Frigone, c'est un véhicule à trois roues, qu'on appelle communément un triporteur. Et donc c'est un châssis qu'on a dimensionné comme un utilitaire et qui permet de recevoir différents métiers et usages dessus, donc pour livrer, collecter des colis, collecter des déchets, en plein cœur des villes et dans les zones à forte densité de population.
Donc c'est un vélo sur lequel on peut poser différents supports qui permettent de livrer par exemple des choses, c'est pour le fameux dernier kilomètre ?
C'est exactement ça, donc le dernier kilomètre, c'est là où les camions s'arrêtent, on vient prendre le relais avec le triporteur Frigone et on vient livrer que ce soit des colis simples ou des colis en température dirigée, puisque nous allons développer des versions frigorifiques, donc en froid positif et négatif, donc jusqu'à moins 25 degrés, on est capable de livrer l'ensemble des clients qui étaient livrés auparavant par des vrais camions, des vrais utilitaires.
Et c'est une nécessité à l'heure où les villes excluent de plus en plus les voitures et donc les livreurs ?
Alors, on est obligé effectivement de continuer à adresser du service dans les villes et donc de livrer. Et le fait qu'il n'y ait plus d'utilitaire, il a fallu développer ces solutions-là. Et c'est plus qu'une nécessité. C'est vital pour que la cité continue de travailler et continue de vivre tous les jours.
Quelle est la vitesse de développement ou d'utilisation du Frigone aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a plus de 300 véhicules qui roulent. On est à en mettre 600 à la route sur 2024. Et en résumé, on devrait être à x2 chaque année à partir du moment où, dans les villes, les contraintes s'accentuent.
Quels sont les freins que vous rencontrez aujourd'hui ?
Alors, c'est le retard des mises en application d'un certain nombre de réglementations au niveau des politiques locales. C'est les infrastructures aussi, parce qu'il y a la politique, mais il y a aussi l'infrastructure. Si vous n'avez pas de piste cyclable, c'est difficile de livrer à vélo. Et c'est également la mise en chantier des organisations des transporteurs de devoir intégrer ces solutions-là dans leur flotte de véhicules.
Oui, parce que pour les transporteurs, ça sous-entend aussi une révolution culturelle.
Oui, clairement, puisque aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un qui a embauché des chauffeurs, etc., et qu'il va falloir embaucher des gens qui n'ont pas de permis, etc., c'est une révolution. Quelle fiche métier on met derrière ? Comment on les anime ? Quels sont les critères de mesurement de l'efficacité à vélo par rapport à l'efficacité en camion ? Et les investissements, qu'est-ce qu'il faut mettre ? Quelle infrastructure, etc., pour pouvoir piloter, entretenir une flotte de vélos cargo ?
Et comment ça se passe ? Parce que les camions, il faut bien qu'ils s'arrêtent quelque part à un moment où le vélo cargo prend le relais.
L'impulsion, elle vient des territoires. Donc il faut organiser les infrastructures pour ça. Je vais donner l'exemple de Lyon. Il y a nouvellement et bientôt inauguré un HLU, Hôtel Logistique Urbain. Donc là, on va massifier avec les camions l'arrivée des colis. Et ça va repartir derrière en véhicule propre et en vélo cargo vers la ville, à destination de l'ensemble des métiers à adresser, que ce soit la collectivité, que ce soit les restaurateurs, que ce soit les particuliers, les magasins, tout le retail, il va falloir les approvisionner. Et donc avec ce type d'infrastructure, on va rendre plus favorable l'utilisation de ces moyens propres à destination de ce qui était à l'époque avec des camions, donc tous les utilisateurs et tout l'écosystème de la ville.
Jérôme Zindi, c'est ce que vous voyez aussi hein, dans votre aventure mobile, il faut que les infrastructures suivent.
Bien sûr, il y a vraiment un changement de mobilité globale, en fait. Hein. Les véhicules intermédiaires, c'est une des solutions. Mais on sait que sur le vélo, effectivement, dès qu'on déploie des infrastructures cyclables, les cyclistes sont là. Et Paris est un très, très bon exemple. Hein. En quelques années, ça a totalement changé. Et puis, on voit aussi tout ce que ça amène. C'est vrai que ça permet aussi de finalement repenser à notre urbanisme, repenser notre façon de vivre dans les villes et de ramener du vivant, en fait. Une rue sans voiture, c'est une rue où on entend les enfants qui rient, qui jouent, c'est une rue où il y a des terrasses, c'est une rue où les gens discutent. Et quand on pratique le vélo, on est effectivement dans ces échanges-là. Donc en fait, effectivement, ça va de pair. Il faut à la fois repenser les infrastructures et effectivement changer nos moyens de déplacement.
Encore faut-il adopter ces nouveaux modes de transport, car aujourd'hui, comme nous le voyons chaque jour dans nos villes, c'est encore la voiture qui règne et ses kilomètres d'embouteillage. Comment en sommes-nous arrivés là? Nous en parlons dans un instant après une belle histoire de voiture racontée en chanson par les Français. Voilà et pas de câlin.
Je ne le connais pas, il est nouveau dans le quartier. Il me parle pas bien, il me dit d'où tu viens. Je lui dis du maquis, je suis un musicien. Il me dit musicien, là où sont tes papiers? Je lui dis au maquis, je les ai oubliés. Et ma femme m'attend, je dois pas trop tarder. Il me dit sors de là et donne-moi tes clés. Et elle me dit tu n'as pas de voiture. 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 Hey. C'est jamais un plaisir que d'aller travailler. Ce matin c'était loin, c'était embouteillé. Pas moyen d'accéder au goudron. J'ai pris la petite route qui descend près du pont. J'ai cassé la voiture sur la route. Il y avait des gros trous sur la route. Et maintenant je lui dis je te ramène en taxi. Mais elle ne le veut pas, elle s'entête, elle me dit tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas de voiture.
Et oui, peut-on encore séduire si l'on n'a pas de voiture? C'est une vraie question. En tout cas, il va falloir changer nos imaginaires, c'est certain. Comme nous l'expliquent les Français, voilà et pas de cala. Et leur titre, Tu n'as pas de voiture sur RFI.
C'est pas du vent sur RFI.
Il faut qu'on se réveille. On est au bord du précipice et ça, il faut bien qu'on se le mette dans le pont.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Le capital, c'est foutu.
Ah oui, ça, c'est fini.
Bon, la société de consommation, c'est foutu. Les voitures, c'est foutu. La cinquième, c'est foutu.
Nous parlons de l'avenir de nos déplacements aujourd'hui dans C'est pas du vent. Le tout voiture qui pollue l'air et l'atmosphère, ce n'est plus possible. Pourtant, c'est encore le modèle dominant. S'il n'y a plus d'essence dans les stations-service, eh bien, la vie s'arrête. C'est le résultat d'une histoire que nous rappelle cette archive avec, dans l'ordre, le président Georges Pompidou et Monsieur Durand.
On peut dire que l'automobile a transformé la vie des hommes en même temps que le visage d'un bon nombre de nations. Et l'on peut dire que l'automobile n'est pas seulement, comme le disait tout à l'heure M. Gallienne, un signe de promotion sociale, elle est véritablement le signe de la libération de l'individu. C'est une forme moderne par laquelle se marque la volonté de l'individu de se libérer du groupe, de garder sa personnalité, sa liberté d'allure, la possibilité d'aller quand il veut, où il veut, comme il veut.
Le salon de l'auto, ce salon, passion des techniciens et régal des amateurs, pour Monsieur Durand, français moyen, c'est un rêve. Un rêve qui lui permet d'apprécier pour un moment les derniers perfectionnements de la technique et du confort. Cher Monsieur Durand, il les regarde toutes ces voitures avec un même amour et chaque arrêt lui est motif d'admiration et de complaisance. Que d'éblouissement pour Monsieur Durand, si grand qu'il ne peut y résister. Et somptueusement carré au volant d'un bolide dernier cri, Monsieur Durand se met à croire à l'automobile, aux lunettes d'écaille, aux cigares, à l'œillet et à l'indispensable compagne de tant de félicité.
Et voilà, et on revient à la femme et la voiture. Aurélien Bigot, est-ce que nous sommes encore tous des Monsieur Durand finalement, ou est-ce que nous avons évolué quand même ?
Disons que ça dépend des personnes, mais en tout cas, finalement, par rapport à l'époque des archives, on a sûrement un usage de la voiture aujourd'hui bien plus élevé. En tout cas, jusqu'au début des années 2000, en gros, le développement de la voiture a été important, jusqu'à un point un peu de saturation aujourd'hui, parce que finalement, sur ces dernières années, on a plus de 80% de la population des ménages en France qui sont motorisés, qui ont au moins une voiture. Et donc, finalement, il n'y a plus beaucoup de marge de développement de cette automobile, mais c'est sûr que par rapport au début des années 50, il y avait une voiture pour 25 habitants. En France, aujourd'hui, c'est à peu près une voiture pour 2 habitants, même un petit peu plus que ça actuellement. Donc vraiment, la voiture domine nos mobilités actuellement.
Il y a une grosse marge de manœuvre dans de nombreux pays où les chiffres ne sont pas ceux-là. Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Puisque la voiture électrique était déjà en concurrence avec la voiture thermique au début du XXe siècle, hein, Aurélien Bigot ?
Oui, c'est ça. Il y a eu une forte concurrence à ce moment-là entre l'électrique, la voiture thermique donc au pétrole, et puis aussi les voitures à vapeur qui ont été tentées pendant un temps. Et puis la voiture thermique a remporté le match en quelque sorte parce que elle avait moins de problèmes d'autonomie, un coût moins élevé, finalement des côtés pratiques plus importants, et puis finalement elle s'est imposée. C'est plus facile par certains aspects d'avoir un seul système énergétique pour fournir les voitures plutôt que deux, et donc à ce moment-là c'est le thermique qui l'a emporté. Et puis finalement on a un revirement actuellement pour des raisons environnementales essentiellement, où désormais c'est prévu que ce soit l'électrique qui l'emporte et qui représente même la quasi-totalité des ventes à l'horizon 2035.
Alors justement, Hamza El Jebari, vous faites partie du groupe de travail batterie au sein de l'Observatoire français des ressources minérales. Est-ce que nous pourrons remplacer toutes les voitures qui fonctionnent à essence et au diesel dans le monde par des voitures électriques ? C'est ce que l'on nous vend aujourd'hui.
Je dirais qu'il serait intéressant de voir le problème sous un autre angle. Est-ce qu'on est capable de le faire ou pas ? Je pense qu'on a les moyens techniques de le faire. Et
mais est-ce qu'on a les ressources ?
Certains diraient que même on a les ressources. Mais la question est-ce que c'est ce qu'on veut faire à l'égard du respect de nos objectifs climatiques? Une récente étude américaine prévoit que si l'industrie automobile continue sur sa lancée actuelle, et électrification comprise, on va dépasser nos budgets carbone en 2035, le budget qui va nous permettre de rester sous les 1,5 degrés. Et on va le dépasser de 75% à horizon 2050. Et donc, pour un peu baisser cette fenêtre de dépassement, va falloir réduire l'empreinte carbone ou les impacts environnementaux de production des batteries de 83% en moins de 10 ans. Il va falloir alimenter ces véhicules électriques à 100% d'énergie d'origine renouvelable à partir de 2031, contre 39% aujourd'hui. C'est quand même un effort colossal. Et il serait absurde, face à l'immensité de ce défi, de se priver d'un autre levier qui est celui rapidement mobilisable, celui des changements de comportement, et de repenser nos façons de se déplacer. Par exemple, passer à la voiture intermédiaire. L'alternative électrique, elle est nécessaire, mais d'abord, il va falloir penser au report modal, prendre le train pour les déplacements longs, le report modal du transport des marchandises vers les modes massifiés, le fluvial, le fret ferroviaire, réduire peut-être nos besoins de mobilité en réimaginant la réorganisation territoriale. Et enfin, s'il y a un déplacement qu'on ne peut pas annuler, le faire en voiture électrique légère.
Voire en vélo.
Parce qu'aujourd'hui, 66% de déplacements de 1 à 5 km sont effectués en voiture. 80% des déplacements de 5 à 10 km sont effectués en voiture. On voit que là aussi, la voiture intermédiaire peut jouer tout son rôle. Donc oui, pour répondre à vos questions, on peut faire l'électrique si on veut, mais à quel prix environnemental ?
Christophe Charles, ça veut dire qu'il faut créer des nouvelles filières, c'est ce que vous essayez de faire avec votre entreprise E.ON. Comment est-ce que ça se passe? Vous en êtes où aujourd'hui et comment est-ce qu'on crée une nouvelle filière dans un pays comme la France?
L'industrie est en train de se fédérer, notamment autour d'expérimentations comme la nouvelle aventure mobile, puisque ce sont des acteurs de cette nouvelle industrie qui se réunissent également au sein de l'extrême défi. Tout le monde n'est pas au même stade aujourd'hui de développement. Et effectivement, E.ON Motors fait partie des acteurs qui sont d'ores et déjà industrialisés.
Mais ça veut dire que vous produisez combien de vos véhicules par an aujourd'hui?
Alors, nous avons commencé notre production l'an dernier. L'an dernier, nous avons produit et vendu 20 véhicules.
Oui,
et cette année, c'est notre
doucement.
Première année. C'est notre première année, nous entendons dépasser la centaine, donc plutôt même 200 véhicules. Et effectivement, c'est une industrie qui grandit pas à pas.
Alors, Jérôme Zindi, vous, à travers votre tour de cette nouvelle aventure mobile, vous rencontrez, je le disais en introduction de l'émission, des gens comme Christophe Charles, un peu partout, il y en a partout en France, il y en a, mais pas seulement, dans de nombreux pays du monde, qui se mettent sur ce créneau du véhicule intermédiaire.
Bien sûr, il y a une vraie recherche de solutions. Hein. La voiture de Christophe, le véhicule intermédiaire, c'est un quadricycle qui fait moins de 500 kilos, qui est beaucoup plus léger, mais il y a d'autres solutions qui existent. Hein. Celui que j'utilise en ce moment, on fait 120 kilos. Il est fait à côté de Carcassonne par un entrepreneur qui cherche donc une alternative à la voiture. Et effectivement, il y a plein de solutions possibles. En fait, le véhicule intermédiaire est en train de s'inventer quelque part. Il y a eu les pionniers de l'automobile il y a 100 ans. Hein. On imagine toutes les formes de voitures qui ont existé avant qu'on en arrive à ces modèles de voitures-là. Et puis encore plein de voitures qui existent. Et dans le véhicule intermédiaire, c'est pareil. Donc ils sont en train de s'inventer, ils sont en train de se chercher. D'ailleurs, même le mot de véhicule intermédiaire, est-ce que ça s'appellera comme ça demain?
Oui, c'est pas très joli, c'est pas très sexy.
C'est pas très beau,
quoi.
C'est un mot technique. Hein. Personne dit je vais faire 10 minutes d'automobile ou je passe te chercher en bicyclette. Donc même le mot va s'inventer. Il faut qu'on s'approprie ces véhicules. Il faut qu'ils trouvent leur place. Et effectivement, il faut qu'ils arrivent à s'industrialiser très rapidement pour qu'on puisse le plus rapidement possible sortir de ce tout électrique avec ces voitures toujours plus grosses, ces tanks électriques qui parfois font plus de 2 tonnes et qu'on arrive vers des mobilités qui soient finalement beaucoup plus raisonnables.
Mais Hamza El-Jebari, je reviens vers vous. Même si on a sur ces véhicules intermédiaires des beaucoup plus petites batteries que sur les gros SUV, etc., c'est quand même un enjeu la batterie parce que ça reste des matières premières à prélever. Il va falloir trouver des systèmes peut-être pour les recycler. On en est où de tout ça?
Alors, le recyclage est à ses débuts, que ce soit à une échelle mondiale ou particulièrement française. La production des batteries aussi en France est à ses débuts. Une usine de batteries a été inaugurée l'année dernière et 3 autres sont à venir. Il y a des discussions autour d'un projet d'extraction minière en France.
Tout ça, c'est de la relocalisation finalement?
Oui, ça fait partie de ces efforts de relocalisation. Mais encore une fois, pour limiter l'impact environnemental de ces batteries, il faudrait réduire au maximum leur taille. Il faudrait penser à comment assurer l'adéquation entre les capacités de ces batteries et le besoin réel de l'utilisateur, le besoin de ses déplacements quotidiens. Il faudrait prendre des mesures de bon sens. Est-ce qu'il serait raisonnable d'équiper des voitures avec des batteries de 80 kWh ou 100 kWh pour effectuer principalement des déplacements d'une trentaine de kilomètres par jour? Il faudrait aussi penser à d'autres alternatives, comme l'autopartage, passer de l'économie de la propriété à l'économie de la fonctionnalité et de l'usage. Parce que, pour vous donner une idée, produire 2 millions de voitures équipées de 50 kWh de batterie, ça nécessite 5 TWh d'énergie pour les produire.
Alors là, ce sont des ordres de grandeur qui sont un peu compliqués pour nous à comprendre.
5 TWh, c'est l'équivalent de la consommation de 400 000 foyers français annuellement.
Ah oui.
Et ça, c'est uniquement pour l'assemblage de ces cellules. Je n'ai pas inclus la quantité d'énergie nécessaire pour extraire les métaux, principalement faits aujourd'hui en carburant fossile, ou les autres consommations d'énergie émissions liées aux logistiques. Donc on a vraiment intérêt à réduire les capacités de ces batteries et les adapter aux usages.
Et les solutions ne sont pas que technologiques, hein, nous allons en parler avec nos invités, mais d'abord faisons une escale au Cap-Vert avec la chanteuse Andrea et son titre Alegria.
DJ Skek. She bring me like, bring me joy, bring me like. Yeah, you the third, is the one I mean, I tell no like. Here that she bring me smile, bring me love, bring me like. She's my best friend, my confidant, she's my queen from long time. To make her my woman. Oi papa, oi mamă, zăce-mi, zăm-i întreg invit, por favor, tot zic mi singap, zăci trege-mi alegria, alegria, trege-mi alegria, alegria. So to be pretty, she's happy with me, we got fun really, yeah, like build a family. When she stay by my side, I don't need anything. First of all, my whole life, I got this feeling. Me like when we talk together, love together, move together. When we spend time, spend night together. Give us a yes, we need to travel together. So what I need to tell you to make you my woman. So tu vi, el te da tout pa mi. So tu vi, el est tout pa mi. Oi papa, oi mamă, zăcea mi zăm-i întreg invit, por favor.
Capverdienne Andrea et son titre Alegria que vous pouvez retrouver sur la playlist de RFI disponible sur vos plateformes préférées.
RFI. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Il faut redéfinir le grotesque en fait. On ne se rend plus compte que les milliers de petites actions qu'on fait tous les jours sont grotesques pour la plupart. Aussi grotesque qu'à l'époque où tout le monde fumait, par exemple. Quand la clope est arrivée, le médecin fumait dans la pièce du mec qui allait mourir d'un cancer du poumon, lui expliquant bah, c'est pas de bol. Hein. Et on s'est rendu compte que c'était grotesque, et maintenant tout le monde le sait. Avec le recul, on se dit que c'était aberrant. Et ben en fait, il y a plein de petites conneries comme ça dans notre quotidien qui sont du même niveau que cette histoire de clope. Et c'est la bonne idée d'arrêter de les faire. C'est ça la vraie idée.
C'est pas du vent sur RFI.
Il va donc falloir renoncer à la voiture thermique ou électrique. Elles sont trop gourmandes en ressources, vous l'avez compris. Mais c'est une véritable révolution de nos mentalités qui doit s'opérer, puisque la voiture a longtemps été signe de liberté et de réussite sociale. Aujourd'hui encore, hein, les clips et les pubs pleins de gros 4x4 rutilants inondent notre imaginaire. Alors Aurélien Bigot, les réactions sont très vives dans les villes, hein, comme Paris par exemple, et dans de nombreux endroits du monde, qui essayent de faire sortir les voitures de leur espace.
Oui, c'est ça. En fait, on se rend bien compte sur la voiture que pour changer les pratiques, en fait, la voiture a pris tellement de place dans les mobilités, tellement de personnes l'utilisent. Pendant tout un temps, on a fait énormément de choses pour faciliter l'usage de la voiture. Alors, à la fois via les infrastructures, via du stationnement abondant, gratuit, etc. Tout un tas de facilités qui ont été permises pour la voiture. Et aujourd'hui, pour réussir à passer à d'autres usages, bien évidemment, il faut développer tout un tas d'alternatives. Mais quelque part aussi à certains moments et bien mettre des contraintes aussi sur la voiture, et ça forcément ça peut amener à un certain nombre de réactions. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que sur le long terme en fait on a beaucoup à y gagner, c'est-à-dire que beaucoup de projets qui vont plutôt dans le sens de la restriction de l'usage de la voiture, et bien quelques années plus tard finalement personne ne reviendrait dessus. Alors on peut voir sur des projets par exemple de changement de limitation de la place de la voiture, par exemple sur des places de stationnement ou sur des voies qui auparavant étaient pour les voitures et puis qui seraient davantage utilisées après pour finalement que les personnes puissent se balader ou puissent utiliser le vélo, les transports en commun, etc. Quand on voit les bénéfices qu'il peut y avoir à avoir une ville plus silencieuse, moins polluée, avec des espaces qui ne sont pas uniquement pour la circulation, le stationnement des véhicules, eh bien on peut voir aussi les bénéfices qu'il y a à cette transition. Mais c'est sûr que dans la phase de transition, quand les pratiques doivent changer, quand il y a des projets aussi qui amènent une restriction de la voiture, eh bien à court terme, c'est sûr que ça peut amener aussi de la résistance, pas de l'ensemble de la population, mais il y a une partie de la population qui ne voit pas ça d'un bon œil.
Mais Jérôme Zindi, ça sous-entend évidemment une implication du politique aussi, parce qu'il faut des décisions politiques fortes pour imposer ces choix et pour les accompagner.
Bien sûr, c'est des choix hein, qui doivent être forts. Effectivement, il faut oser, comme le disait Aurélien Bigot, il faut oser amener le changement. Mais j'espère que évidemment ça va se faire. Il faut qu'on sorte du tout voiture. Il faut qu'on encourage du coup automatiquement d'autres solutions de mobilité.
Alors en France aujourd'hui, il y a des accompagnements fiscaux, par exemple, pour essayer d'inciter les gens, mais plus à passer d'une voiture thermique à une voiture électrique plutôt qu'au véhicule intermédiaire.
C'est effectivement un des enjeux forts. Moi, quand je présente ce véhicule aux gens que je rencontre sur le terrain, l'un des freins, effectivement, c'est le coût à l'achat. Alors, après, on sait qu'une voiture coûte très très cher, hein, quand on compte la décote, le carburant, l'entretien, l'assurance, etc. Une voiture, en moyenne, en France, c'est 500 euros par mois. Donc derrière les enjeux environnementaux, il y a aussi des enjeux sociaux très forts. Et le véhicule intermédiaire permet de répondre à ces enjeux-là, à condition évidemment qu'on puisse acquérir ce véhicule au départ. Aujourd'hui, un véhicule comme celui que j'emploie, actuellement pour ce Tour de France, il va coûter entre 10 et 12 000 euros une fois industrialisé. Donc il est vraiment essentiel et impératif qu'il y ait des aides mises en place par le gouvernement qui soient aussi intéressantes que sur les véhicules électriques pour que les gens puissent s'équiper. On peut imaginer demain qu'un véhicule intermédiaire coûte 5, 6, 7 000 euros. Et là, du coup, ça devient intéressant, vraiment, en remplacement de la voiture. Et puis après, les gains à l'usage sont énormes, hein, puisqu'un véhicule intermédiaire, ça consomme très, très peu. Le véhicule que j'utilise, par exemple, avec 1 euro d'électricité, je peux faire 150 km. 1000 km pour 7 euros d'électricité. Ce sont des pièces qui viennent du vélo. On peut changer les pneus soi-même, on peut changer les freins soi-même. Donc, c'est aussi se réapproprier son moyen de déplacement. Donc, c'est tous ces enjeux-là qu'il faut absolument encourager.
Alors Christophe Charles, l'enjeu aussi c'est le poids, hein, parce que moins la voiture est lourde, moins on utilise de ressources.
Oui, la légèreté du véhicule conditionne sa consommation, mais également son autonomie grâce à une batterie de taille mesurée.
Et quand je parlais de freins dans la tête, en fait, de freins culturels, en Asie, c'est en plein développement ces véhicules intermédiaires.
Alors d'après mes chiffres, qui méritent d'être vérifiés, hein, mais aujourd'hui en Asie, le segment qu'on appelle le low speed, donc en Asie vous avez une séparation entre les véhicules qui peuvent vous rouler à plus de 100 km/h, qui ont des dotations de voitures classiques européennes telles que nous les connaissons, et les véhicules qui ne peuvent rouler que jusqu'à 100 km/h et qui ont donc des dotations un peu plus modestes en général. Et ce marché-là en Asie représenterait 20 millions de véhicules annuellement.
Oui, donc ils pourraient arriver partout ces véhicules, non? C'est une question de normes.
Je pense que c'est effectivement une question de critères d'homologation.
Et c'est là je vous sens frémir un petit peu.
Un peu.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des barrières en Europe pour vous défendre, par exemple?
Ou peut-être tout simplement porter plus haut notre industrie naissante et permettre à une filière française de d'éclore aux yeux du grand public.
Hamza El-Jebari, l'ADEME, a lancé un appel à projet pour que des laboratoires travaillent justement sur le changement des comportements, parce que je le disais, la solution n'est pas que technologique.
Tout à fait, il s'agit de l'appel à projet protocole d'expérimentation sur l'usage de véhicules intermédiaires. Ça complète l'arsenal des appels à projets que l'ADEME a mis en place pour faire émerger cette nouvelle communauté et cette filière industrielle autour des véhicules intermédiaires. L'objectif, c'est d'inciter des laboratoires de recherche de s'appuyer sur la communauté Extrême Défi qui a été déjà mise en place, entre collectivités qui ont répondu à l'appel lancé par l'ADEME pour expérimenter 30 véhicules intermédiaires sur leur territoire. Il s'agit de 6 territoires éparpillés un peu sur le territoire français. La communauté est composée aussi d'industriels, d'expérimentateurs. Et l'idée, c'est de perfectionner nos protocoles d'expérimentation. On attend des scientifiques de nous fournir des recommandations sur comment mettre en place des expérimentations taille réelle, comment exploiter les retours des utilisateurs, parce que durant les 30 expérimentations en cours, chaque utilisateur a un carnet de notes pour un peu indiquer ses retours sur la technologie, sur l'architecture, sur l'aménagement territorial. Et notre idée, c'est de profiter des savoirs en sciences humaines et sociales pour un peu changer les imaginaires autour de ces véhicules intermédiaires et favoriser leur acceptation par les utilisateurs.
Aurélien Bigot, avec tout ce que nous avons dit dans cette émission, on a bien compris que la révolution était en marche, mais enfin, il y a quand même un énorme pas à franchir, puisqu'aujourd'hui, dès qu'on marche dans la rue, dès qu'on allume sa télévision ou qu'on est sur les réseaux sociaux, on a des publicités pour des voitures thermiques ou des voitures énormes. Enfin bon, la vision de la mobilité qui s'appuie sur le véhicule intermédiaire ou le vélo ou la marche à pied ou le transport, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est rendu le plus désirable.
Oui, c'est ça, c'est parce que aujourd'hui, en fait, on a des politiques de transport qui sont quand même beaucoup orientées vers des politiques économiques, donc notamment finalement de soutien aussi aux constructeurs automobiles dans la transition qui est faite, qui est vue beaucoup trop sous l'angle technologique et pas du tout assez sous les changements d'usage, hein, tout le volet sobriété qui a été évoqué. Et c'est sûr que si jamais on veut répondre aux défis climatiques, mais aussi aux autres défis de consommation de ressources, de pollution de l'air, de pollution sonore, d'activité physique qu'il faut davantage avoir aussi dans nos mobilités pour être en meilleure santé, eh bien il faut justement essayer de limiter l'usage de la voiture avec parfois du coup aussi certaines politiques qui vont pas forcément dans le sens des constructeurs automobiles qui pour l'instant ont tout intérêt à vendre des voitures qui sont plus lourdes, plus haut de gamme et donc plus chères, donc qui consomment aussi plus de ressources. Donc finalement à la fois d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental, finalement ça ne va pas vraiment dans le bon sens, eh bien, il faut aujourd'hui que les incitations envers ces constructeurs changent pour qu'au contraire, ils aient intérêt à aller vers des véhicules qui sont plus sobres et qui sont plus vertueux d'un point de vue global et qui nous permettent davantage de répondre aux différents défis qu'on a actuellement dans les mobilités, sans quoi, d'un point de vue financier, aujourd'hui, ils ont cet intérêt à aller vers des véhicules plus gros alors que l'intérêt collectif est ailleurs.
Mais cet intérêt collectif, il va falloir le défendre et ça passe, Jérôme Zindi, par exemple, par des aventures comme la vôtre, la nouvelle aventure mobile, donc la suite, là, votre prochaine étape.
La suite, direction les Alpes, pour rencontrer des équipementiers automobiles qui ont compris que leurs clients, les constructeurs automobiles, allaient droit dans le mur s'ils continuaient de produire des véhicules toujours plus gros et qui se mettent eux-mêmes à construire des véhicules intermédiaires.
Hamza El-Jebari, donc l'extrême défi, on va suivre ça de près. Les prochaines étapes?
C'est le lancement cette semaine même de l'appel à projet industrialisation, dont l'objectif est de lancer la production de pré-série de voitures intermédiaires et de passer à la vitesse supérieure.
Christophe Charles, vous allez retourner dans votre Wiz et puis voilà, pousser à fond l'industrialisation là?
Tout à fait, exactement.
Pour essayer de satisfaire de plus en plus de consommateurs, puisque la demande, malgré tout, croît rapidement.
On y croit et on s'y attelle.
Très bien, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. La nouvelle aventure mobile, c'est à suivre sur YouTube, Jérôme Zindi.
Oui, c'est ça, YouTube, LinkedIn, Instagram, sur les réseaux sociaux.
Et les réseaux sociaux.
De l'ADEME aussi, hein, parce que c'est une aventure qui est portée par l'ADEME, donc qui croit beaucoup au véhicule intermédiaire.
Voilà, et si vous voulez tout comprendre sur les voitures et leur avenir, je vous suggère de lire le livre « Voitures au pluriel » d'Aurélien Bigot. C'est publié dans la formidable collection « Fake or Not » chez Tana Édition. Merci Aurélien Bigot d'avoir été avec nous depuis Amiens. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à nous écrire et à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.